J'aimerais parler ce matin, vous l'avez sur l'écran, « Oh, j'ai besoin de toi ». Et je crois que c'est un soupir intérieur qui monte ce matin. Nous l'avons discerné à travers le temps de louange, nous l'avons chanté. Merci à Laetitia qui, dans la liste de chants, a proposé aussi ce vieux cantique du Gem 1-349, « Oh, j'ai besoin de toi ». Ce chant m'a accompagné ces jours-ci en lien avec le thème. « Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. » En introduction, je suis là. En introduction, j'aimerais parler d'un interview avec le cardinal Robert Sarah. C'était dans la période de Noël. Et la journaliste qui interviewait cet homme, ce prêtre, lui a posé une question directe. Cette journaliste était très ouverte sur le plan de la foi, mais bien sûr, elle a posé une question très circonstancielle, adaptée à la situation en Europe. Pourquoi, selon lui, l'Europe est aujourd'hui une terre déchristianisée. Et cet homme d'église, né dans le nord de la Guinée, a répondu sans hésitation, très calmement, très posément, « Eh bien, voyez-vous, madame, l'homme moderne, occidental, européen, s'appuie au maximum sur la science et sur l'économie. Et comme il s'appuie au maximum sur la science et sur l'économie, il n'a plus besoin de Dieu. » Et il a rajouté aussitôt, dans son pays natal, compte tenu de la situation précaire, grande fragilité, les habitants, pas tous, mais quand même nombreux, ont encore la bonne habitude de s'appuyer sur Dieu. Car, en raison du contexte, ils ont tant besoin de Dieu. J'ai été très touché par sa réponse. Oh, vous allez me dire, mais c'est connu, c'est extrêmement simple, c'est vrai. Mais cet homme est reconnu dans le clergé catholique comme une figure intellectuelle brillante, un théologien hors pair, philosophe, et certains pensent même le verraient très bien comme le futur pape. Alors je ne suis pas en train de faire de la publicité pour le cardinal Robert Sarah. Je ne sais pas s'il est traditionnaliste, conservateur ou libéral. Je ne connais rien d'autre, si ce n'est cette interview. Mais j'ai apprécié sa réponse. Cet homme, malgré ses hautes responsabilités, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dans ma propre vie, parce qu'il l'a aussi dit dans cette interview, il dit, vous savez, madame, je consacre beaucoup de temps, j'en ai tellement besoin, à rechercher Dieu par la prière, par l'écoute, par le silence. Dans nos milieux, des fois, on redoute le silence. La quête de la présence de l'Esprit. En qui nous sommes, mes frères et sœurs, dans qui nous sommes, dans tout ce que nous vivons, nous avons tant besoin de Dieu. En tout cas, c'est mon témoignage, c'est mon ressenti. Nous avons besoin d'être plus en contact avec la transcendance de Dieu. Qu'est-ce que la transcendance de Dieu? Dans son approche théologique, la transcendance, c'est un attribut de Dieu. On l'appelle Dieu le transcendant par excellence, parce que dans le monde créé par lui, il demeure l'invisible. Le transcendant, c'est ce qui est au-delà, ce qui dépasse, ce qui surpasse. en étant d'un tout autre ordre. Dieu est au-dessus de nous. Il est le transcendant. Mais il est aussi au milieu de nous. Il est Emmanuel. Et il est avec nous, à travers Jésus, qui nous a promis sa présence jusqu'à la fin du monde. La transcendance est donc ce qui dépasse notre nature humaine, ce qui nous est inaccessible. Dieu, cependant, mes chers amis, n'est pas seulement infini, alors que nous avons, nous, une mesure finie. Dieu est d'un autre ordre. Et c'est parce qu'il est source de ce qui existe que nous existons. Il est à la fois si éloigné, parce qu'il est grand, il est au-dessus, et il est en même temps si proche. Si ce n'était le choix de Dieu de se rendre accessible en venant à nous à travers Jésus, en nous créant à son image, nous n'aurions aucune chance d'être proches de lui. Or, nous le sommes. Quand nous disons « nous avons tant besoin de toi », il nous promet qu'il va répondre. Il nous promet la communion, la relation vivante entre lui et nous. Et comme il est notre divin créateur, j'aimerais voir avec vous une illustration qui montre le doigté incroyable de Dieu. Oui, rien n'est laissé au hasard dans sa main souveraine, dans sa main créatrice, dans sa main puissante. Savez-vous que dans le cerveau humain, il existe des centres névralgiques qui permettent d'éprouver des sensations agréables ou désagréables, et par là, des désirs, des besoins, par exemple, besoin de nourriture, besoin de repos, besoin de bien-être intérieur. Le doigté de Dieu, comme il a imaginé les choses. Dieu a donc les choses, afin que l'être humain ressente les besoins, afin que l'être humain dépende de lui, tout en nous laissant libres, libres de notre choix. La science progresse, et nous en sommes bien sûr d'heureux bénéficiaires. L'économie prospère dans notre pays, et on ne va quand même pas s'en plaindre. Mais en 2022, qui a commencé depuis quelques jours, sur qui allons-nous nous appuyer? Sur qui allons-nous nous appuyer tout au long de cette année? Parce que, disons-le, la science a ses limites. L'économie, ses fluctuations. Mais Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Et là, je fais le lien avec ma lettre mensuelle de janvier, avec le verset du mois, Jacques 1, 17. Tout bien fait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu est immuable. Cela veut dire concrètement qu'il ne vieillit pas, qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne se décourage pas. Rien ne peut l'ébranler. Son caractère est d'une stabilité à toute épreuve. Pour ceux, nous allons maintenant lire la parole de Dieu, pour ceux qui lisent le lecteur de la Bible, nous sommes dans l'évangile de Jean ces temps-ci. Enfin, plutôt, mon épouse elle est une assidue du lecteur de la Bible, et comme j'étais avec elle les premiers jours de l'année, on a lu les textes du lecteur. J'ai été frappé de voir ce que Jean-Baptiste, le précurseur, l'envoyé de Dieu, dit en ce qui concerne Jésus. On regarde ensemble, c'est dans Jean 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et là, il confesse, il proclame sa foi. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Voyez-vous, Jean-Baptiste, dans ce passage des Écritures, alors qu'il est au commencement de la mission terrestre, comme précurseur, quelle mission noble mais tellement importante, il ne peut pas se gourer comme on dit chez nous, il a besoin d'une révélation claire de qui est Jésus. Il est en plein début de ministère, mais heureusement il sera saisi par l'Esprit Saint et il pourra alors, parce que convaincu par l'Esprit de Dieu, il pourra proclamer sans hésitation, oui, Jésus, oui, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui vient à moi, c'est l'agneau de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Et pourtant, si vous avez remarqué dans ma lecture, vous l'avez peut-être remarqué dans vos lectures, puisque vous êtes plusieurs dans le lecteur de la Bible, vous avez remarqué que dans ce même texte, à deux reprises, il dit « Je ne le connaissais pas ». Vous avez remarqué dans vos lectures? Cela vous a peut-être surpris. Moi, ça m'a surpris. Pourquoi à deux reprises il dit « je ne le connais pas » alors qu'il vient de professer sa foi? Ça pourrait paraître contradictoire. D'un côté, il dit qu'il connaît Jésus. Oui, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et puis en même temps, il dit « non, mais je ne le connais pas ». Que se passe-t-il? N'est-il pas le cousin de Jésus? Et les mamans Élisabeth et Marie ne sont-ils pas très proches? N'ont-ils pas Jean-Baptiste et Jésus passé du bon temps à jouer lorsqu'ils étaient gamins ensemble? Et plus tard, ils ont vécu leur jeunesse, pas seulement parallèlement, mais parfois ensemble. Alors pourquoi dit-il qu'il ne connaît pas Jésus? Serait-il menteur? Oh, manquerait-il de courage par peur de représailles? Il veut dire par là, oui, je le connais, humainement parlant. Mais il veut dire par là qu'il a besoin, qu'il a eu besoin d'une véritable révélation suscitée par l'Esprit Saint pour saisir que son cousin, qu'il a connu depuis sa tendre enfance, est bel et bien le Fils de Dieu et clairement l'agneau de Dieu. Et ce n'est pas sa chair qui lui donne cette conviction, c'est l'Esprit de Dieu. Il a eu besoin d'une révélation claire de qui est Jésus. Une autre étape marquante dans la vie de Jean-Baptiste, alors qu'il est en prison, nous allons lire dans un petit moment Luc 7. Il est donc maintenant en prison pour avoir invité le peuple à la repentance et prêché que le Messie était là. Et voyez-vous, au début de son ministère, il proclame sa foi. Quelques jours plus tard, un certain temps plus tard, il est maintenant dans les geôles romaines. Et là, il sera saisi de doutes. De Jésus, que fera-t-il? Eh bien, il enverra auprès de Jésus deux de ses disciples, deux messagers, afin de vérifier l'exactitude de son discernement. Parce que même s'il est Jean-Baptiste, même s'il est le précurseur, même s'il n'y a pas eu de plus grand prophète que lui, dira Jésus, il a aussi ses heures de doute, il a aussi ses moments de combat, il a aussi ses moments où il ne comprend plus ce qui se passe. Parce que dans la persécution, il est victime innocente. Il doit se demander, mais est-ce que je ne me serais pas trompé en reconnaissant Jésus comme l'envoyé de Dieu? Est-il vraiment le libérateur? Regardez ce qu'il m'arrive. Il doit se demander, est-ce que j'ai bien fait de baptiser Jésus lorsqu'il est venu à moi au Jourdain? Mais heureusement, je me rappelle, l'Esprit Saint m'a saisi, me permettant à ce moment-là d'accepter cette noble mission, alors que je ne voulais pas. Mais j'en ai été convaincu. C'était plus fort que moi. Dieu me parlait. Est-ce que maintenant, tout serait remis en question? Au moment où Jésus est venu à lui dans Jean 1, il a eu besoin d'une révélation spirituelle de qui était Jésus. Plus tard, en prison, il a maintenant besoin d'être rejoint. Il a besoin d'être rassuré. Parce qu'il est dans la perplexité. L'opposition est tellement forte. Et nous l'aurions, nous aussi, été à sa place. Mais au lieu de se laisser assaillir par les doutes, par l'angoisse, pour nous, en début 2022, il recevra une réponse. Il a besoin d'une réponse. Il avait besoin d'une révélation. Il a maintenant besoin d'une réponse face à son questionnement. Et nous lisons maintenant ce texte dans Luc 7, depuis le verset 21 au verset 23. Je vous lis. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Il a été rejoint dans son combat intérieur. Face à nos questions, demandons des réponses au Seigneur. Prenons-en de la graine. Nous sommes frappés par l'attitude authentique, honnête de Jean-Baptiste. Lorsqu'il croit, il proclame sa foi. Il en parle au Seigneur. Alors pas directement puisqu'il ne peut pas y aller, mais il envoie des messagers. Et nous savons fort bien ce que dira Jésus de lui au même chapitre, au verset 28. Je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Aux yeux de Jésus et sur le plan humain, il n'y a pas eu d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste a eu besoin d'une révélation claire de qui était Jésus. Et il a eu besoin d'être rassuré face à ses doutes. Et nous, qu'avons-nous besoin ce matin? Nous avons certainement besoin, ce début d'année, d'une nouvelle révélation sur qui est Jésus. Et de pouvoir dire avec Jean-Baptiste, j'atteste qu'il est mon berger, qu'il est mon ami, qu'il est devant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. J'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons besoin, je l'espère, de montrer de l'humilité, comme Jean-Baptiste, quand Jésus vient à lui, dit, mais tu veux te faire baptiser par moi, mais je suis indigne. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. On a besoin d'humilité face à la grandeur de Dieu. Besoin de soumettre nos besoins à Dieu. Vous aurez ces références pour ceux qui prendront le résumé, c'est Matthieu 6, où on voit qu'on n'a pas besoin de multiplier nos paroles, parce que Dieu connaît nos besoins, il connaît parfaitement l'ampleur de nos besoins. Et on peut répandre notre cœur devant lui. Besoin de soins médicaux, lorsque les pharisiens le provoquent pour dire comment tu manges avec les pêcheurs, comment tu manges avec les collecteurs d'impôts, il dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous malades d'une maladie, mais ça veut dire que soit on est bien portant, c'est-à-dire suffisant, soit on ressent le besoin, comme le malade qui a besoin de consulter le médecin. On a besoin de consulter le grand médecin de l'âme. Besoin de repentance. Et là, c'est Luc 15, verset 7. Il y a 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y en a un qui a besoin de régler sa vie devant Dieu. Des besoins satisfaits en Dieu, ça c'est 2 Corinthiens 9, 8, où on voit que l'apôtre Paul parle de libéralité, d'argent que nous pouvons donner pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu pourvoira, dit le texte, à tous vos besoins, et pas simplement sur le plan argent, à tous vos besoins. Il connaît la diversité de nos attentes et de nos besoins. Besoins personnels connus et exprimés, C'est beau parce que d'un côté, il n'y a pas besoin de multiplier nos paroles, puis en même temps, il aime le Seigneur lorsque nous lui exprimons clairement une demande précise. Et ça, c'est dans Philippiens 4, 6. Besoin de persévérance. Tout au long de cette année, nous aurons besoin de persévérer, non pas devant Jésus, mais derrière notre Seigneur. Et enfin, besoin humain et spirituel rejeté, vous l'avez là dans le texte. Et là, nous sommes enrichis, 3 versets 17, c'est l'église de Laodicée, où ces gens s'étaient enrichis, on pourrait dire, c'était des matérialistes de première, même si c'est, voilà, on essaie de l'adapter à aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'espère que nous avons de nombreux besoins ce matin et que nous avons envie de les soumettre à Dieu. Parce que le besoin qui vient de l'Esprit de Dieu, provoqué par le Seigneur dans nos cœurs, crée un manque. Et c'est bon signe si ce matin tu as un manque intérieur ou tu ressens des manques. C'est bon signe parce que c'est provoqué par l'Esprit Saint. C'est provoqué par ce besoin de dépendre de Dieu qui attire notre être, l'Esprit Saint qui attire notre être vers le Seigneur. Les circonstances, notre état physique, émotionnel, nous rappellent sans cesse notre condition humaine fragile. Oui, notre âme a besoin, a tellement besoin du Seigneur. On a besoin, on peut continuer, notre âme a besoin de paix. Tu es peut-être dans la crainte ce matin. Le Seigneur aimerait t'accorder sa paix. Nous avons besoin de confiance. Peut-être que la morosité ambiante t'affecte beaucoup. Le Seigneur nous donne sa confiance. On a peut-être besoin de sérénité face à une tempête. On peut vivre aussi des tempêtes dans l'Église. On a besoin de sérénité. Face à l'agitation, moi j'ai trouvé terrible l'agitation du temps de Noël dans les magasins, tout cela, même dans les familles par moments, on a besoin du calme. Face à ces mauvaises nouvelles, on a besoin de paroles rassurantes. Au lieu de nous appuyer sur des béquilles limitées, appuyons-nous sur le rocher des siècles, le Christ. S'il nous est possible de désirer Dieu plus que tout au monde, j'espère que c'est votre témoignage. Alors, je ne dis pas qu'on le vit tout le temps comme ça. Mais notre soupir intérieur, c'est celui-ci. Seigneur, c'est surtout de toi que j'ai tant besoin. C'est en union au désir de Jésus-Christ. Jésus est rempli d'un désir brûlant de communier avec le Père et de lui rendre gloire. Mais ce désir du Fils, tendu vers son Père, est inséparable du désir qui le porte vers nous, ses enfants. Le désir de communier. Il a besoin, notre Seigneur, de communier avec nous. Besoin de communier avec le Père. Besoin de communier avec ses enfants. Ce désir de communion est divin. Et il vient en nous. Moi près de lui et lui près de moi. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 17, on voit clairement que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». a besoin de venir chercher son Église. Et l'Église a tant besoin de voir celle qu'elle a adorée au cours des siècles. L'homme nouveau, baptisé dans la mort, dans la résurrection du Christ, trouve son épanouissement dans l'espérance d'une communion profonde, toujours plus grande et toujours plus profonde, avec son Dieu au cœur de Père. Le mot de conclusion. Par rapport à tout ce que nous vivons présentement, personnellement, ou en vie d'Église, ou les deux, nous avons besoin d'une nouvelle révélation en ce début d'année de qui est Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. Vous trouverez mon petit résumé dans le présentoir à gauche en sortant. Que Dieu vous bénisse.